Gloire à Dieu. On va continuer dans la joie, puisqu'on on a débuté ce culte dans la joie, et je pense que nous sommes encore joyeux. Il suffit que je regarde vos figures pour le voir. Voilà, alors je ne sais pas, il y a peut-être parmi nous aussi des visiteurs, puisque j'ai appris que c'était les vacances scolaires dans certaines régions de France. Il y a peut-être des gens qui sont de passage dans notre église. Alors soyez les bienvenus, parce que c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est ouverte. L'entrée est libre. La sortie aussi, remarquez. Et l'entrée est libre. Alors ce matin, le thème du message, c'est une interrogation. C'est est-ce que ce matin, nous sommes disposés à recevoir ? Est-ce que nous sommes disposés à recevoir tout ce que Dieu veut nous donner ? C'est une question que je me suis demandé parce qu'on parlait justement de nos limites, des limites de Dieu, si autant on peut parler des limites de Dieu. Et c'est cette question qui me taraudait. Alors je suis allé voir dans la parole et on va lire dans Acte 3, du verset 1 au verset 8. C'est un épisode que vous connaissez sans doute. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Quelle grâce le Seigneur a fait. C'est un formidable passage, n'est-ce pas, que cette guérison miraculeuse du boiteux. C'est quelque chose qui moi, me ravit quand je lis les miracles et les prodiges que Dieu accomplit dans nos vies. Et souvent, moi, je me suis demandé, en lisant ce passage-là, qu'est-ce que cet homme pouvait bien penser ? Qu'est-ce qu'il pouvait bien penser ? Qu'est-ce qu'il pouvait attendre ? Qu'est-ce qu'il pouvait attendre dans son fort intérieur, dans sa vie ? Lorsque Pierre lui demande de les regarder, Pierre et Jean lui demandent de les regarder. Est-ce qu'il a pensé que ces deux hommes allaient lui donner l'aumône ? Est-ce qu'il était dans une position vraiment de foi pour recevoir quelque chose ? Est-ce qu'il pensait déjà que ces hommes pouvaient changer son destin ? Ça, c'est des questions que moi, je me suis posées. Mais toujours est-il qu'à la suite de la parole de Pierre, lui disant qu'il n'avait ni or ni argent, qu'il n'avait aucun argent à lui donner, eh bien, cet homme a vraiment reçu au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Et c'est ça, les miracles du Seigneur. Le verset 5 là, nous dit qu'il a regardé attentivement les apôtres. Et je pense, moi, que dans l'intensité de ce regard que ce boiteux a porté sur les apôtres, il y a une leçon pour nous. Il y a une leçon pour nous. On peut découvrir quelle est la disposition intérieure, notre disposition de cœur, la disposition de cœur que nous devons avoir pour recevoir. Cette disposition de cœur qui va nous montrer le chemin pour atteindre le miracle. Amen. Alors peut-être que ce matin aussi, vous êtes venus pour recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Mais l'interrogation qu'on peut avoir, c'est comment notre cœur est disposé pour cela. Parfois, on vient, on chante, on prie, mais parfois également, on ne s'attend pas à recevoir. Ça semble paradoxal, mais c'est ainsi. Et souvent, la prière inexaucée devient une habitude et ne nous conduit même plus à nous interroger nous-mêmes sur notre disposition de cœur, sur notre vie, sur notre piété, sur notre démarche chrétienne. Moi, j'ai constaté parfois qu'on peut entretenir une vie religieuse avec des apparences spirituelles, mais que notre foi n'est pas pleine et entière dans notre Dieu. Comme cet homme, parfois on se trouve à la porte du temple, devant la maison de Dieu, mais on y est parce qu'on a un handicap, ou on y est pour attendre quelque chose, mais quelque chose de matériel, pour attendre l'aumône. Mais ce n'est pas la position que nous devons avoir dans notre Église ou à la porte de notre Église. De nos jours, rien ne nous empêche de passer la porte du temple. À cette époque, l'handicap lui interdisait l'entrée du temple. Mais nous, quel que soit notre handicap, notre infirmité, notre péché, la porte du temple est ouverte. Amen, amen, l'entrée est libre. Mais je pense qu'il faut venir aussi dans le temple avec une autre idée que simplement s'asseoir, attendre et repartir. Parfois, c'est vrai qu'on est assis dans le temple, mais on est comme si on était resté à la porte du temple. Être à la porte du temple, ça veut dire être déconnecté de cette relation avec Dieu, être déconnecté de ce qui se passe au sein de l'Église, être déconnecté de la communion fraternelle. C'est ça, rester à la porte du temple. C'est tout ce qui nous empêche d'être vraiment réceptifs à ce que Dieu veut nous donner et de rester malheureusement comme cet homme boiteux, paralysé. On vient aussi parfois avec des idées précises dans le temple. On en serait même à expliquer à Dieu comment il faudrait qu'il fasse dans nos vies. Parce qu'on a des besoins. Et on dit, Dieu va pourvoir, Dieu va répondre à nos besoins. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu est souverain. Alors ce matin, moi, mon interrogation, c'est dans quel état d'esprit, dans quelle disposition de cœur je viens? Est-ce qu'il n'y a pas certains brouillards qui viennent obscurcir mon esprit, mon cœur, ma foi? Est-ce qu'il n'y a pas ces choses qui peuvent bloquer la bénédiction de Dieu? Parce qu'il y a des choses qui bloquent la bénédiction de Dieu, vous savez. Dans la Bible, on trouve des manières d'être pour recevoir cette bénédiction. Dans 1 Samuel, il est dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et en ce moment, l'Éternel a le regard sur nos cœurs, à chacun d'entre nous. Il connaît nos cœurs. Il ne porte pas de jugement, mais il connaît nos cœurs. Il sait si nous sommes là avec un cœur bien disposé, un cœur entier à lui, un cœur ouvert. Un cœur qui est vraiment rempli de foi et non pas un cœur qui pourrait être dirigé par l'émotion. Dieu n'a rien à faire de l'émotion. Parfois l'émotion, on s'en sert comme d'un outil dans la prière pour demander à Dieu. Un petit peu comme moi quand j'étais petit et que je tapais du pied, je me roulais par terre pour obtenir un bonbon. Je savais bien faire ça. J'avais une technique impeccable. Mais ça, c'est de l'émotion. Et on peut être plein d'émotions devant le Seigneur, se rouler par terre pour exiger quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ces manifestations-là, elles sont pas des manifestations de foi. Ça montre plutôt une certaine immaturité. Et le Seigneur veut que nous soyons matures en lui, que nous avancions de progrès en progrès. Que nous ayons vraiment cette connexion avec lui permanente, continue. Lorsqu'on prie, lorsque je prie, je m'attends uniquement à ce que Dieu donne, ni plus ni moins. Mais je m'attends à ce qu'il donne, mais selon sa volonté, parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Cette attitude-là, mes frères, mes sœurs, elle est toujours source de bénédiction et source de grandes surprises, la bonne disposition de cœur. Tant que notre cœur n'est pas disposé, comme je le disais, on n'est pas prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. On peut croire que Dieu peut exaucer ses prières, mais si notre cœur n'est pas ouvert pour recevoir non plus ses prières, ses bénédictions, rien n'y fera. C'est un petit peu l'image qui me venait lorsque je pensais à ce message. C'est comme si on était des bouteilles d'eau ou des bouteilles, mais avec le bouchon fermé qu'on mettrait sous le robinet pour la remplir. Dieu déverse ses bienfaits, ses cadeaux, ses bénédictions. Mais nous, notre cœur n'est pas disposé, notre bouchon empêche ses bénédictions d'entrer dans nos vies. Amen. C'est souvent comme ça dans nos vies et c'est vrai que Moi, je demande pardon au Seigneur pour la l'attitude de cœur que parfois empêche de recevoir toutes les bénédictions. Alors la Bible nous dit que pour recevoir ces bénédictions, il y a un temps de préparation. C'est ce qu'on va voir ensemble parce que la Bible nous donne des clés pour cela, un certain temps. Dans le Deux Rois, on va lire le passage où Élisée conduit la veuve dans la dimension justement du miracle. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et lui dit « Va demander au dehors des vases de tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle fermait la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit « Va vendre l'huile, paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Amen. Cette femme, elle attendait un geste du prophète. Elle n'avait plus rien, alors peut-être qu'elle attendait un geste matériel. Mais le prophète lui a parlé de l'huile. Mais elle n'était sans doute pas disposée à recevoir cette huile, puisqu'elle n'avait qu'un vase, comme il est dit dans le passage que nous venons de lire. Et non seulement elle n'avait qu'un vase, mais en plus elle l'avait laissé à la maison. Pas de chance. Pas dire pas de pot, c'est un vase, mais pas de chance. Parce qu'elle n'avait pas de vase. Et si Dieu avait accompli son miracle tout de suite, avait donné sa bénédiction, l'huile aurait été perdue. Parfois, moi, je pense qu'on peut venir aussi à l'église sans nos vases. On vient à l'église sans nos vases. Nos cœurs ne sont pas ouverts, ne sont pas disposés. Nos vases ne sont pas là à disposition du Seigneur pour qu'il les remplisse de tout ce qu'il veut nous donner. Et malgré le conseil du prophète, cette femme, cette veuve, a minimisé aussi la parole du prophète. Il lui a dit d'aller chercher des vases. Et elle a sous-estimé, sous-évalué la possibilité, la grandeur, la puissance de Dieu, puisqu'elle n'a pris qu'un certain nombre de vases. Et lorsque les vases étaient remplis, qu'il n'y avait plus de vases à remplir, l'huile s'est arrêtée. Mais si elle avait eu encore des vases, l'huile aurait continué. Et c'est un petit peu une des dispositions de cœur que nous devons avoir. Notre cœur doit être rempli d'une foi inextinguible, d'une foi pleine de confiance envers notre Seigneur, et toujours ouvert, toujours disposé pour que l'huile ne s'arrête jamais d'y couler. Amen. Souvent, on a peut-être, nous aussi, sous-évalué la puissance de Dieu. Moi, je me disais, des fois, on veut venir aux sources de vie que le Seigneur déverse sur nous, mais on y vient avec un dé à coudre. On limite notre Dieu. Il faut qu'on y vienne avec le nombre le plus grand de vases ouverts pour cela, qu'on ne limite pas l'action du Seigneur. La remise en question, elle n'est pas à faire du côté de Dieu, la remise en question, elle est à faire à notre niveau, à notre côté. De temps en temps, j'ai remarqué, moi, qu'on reproche à Dieu de ne pas avoir agi, son manque d'efficacité. Mais en fait, si on y regarde un peu plus, c'est son propre manque d'efficacité qui est à mettre en cause, pas celui de Dieu. C'est un petit peu comme si une personne réclamait à l'EDF que les ampoules qu'il a ne fonctionnent pas, et si ces ampoules ne sont pas branchées sur le secteur, elles ne fonctionneront jamais. Et parfois, ça peut être l'attitude que l'on a envers notre Seigneur. Une première clé, une deuxième clé dans Jean 2, du verset 1 au verset 11, connaissez aussi, c'est le premier miracle de, de Jésus à Cana. Hier, on était au mariage de Mathieu et de Sophie. Et moi, j'aime bien les mariages. Et c'est pour ça que j'étais heureux après de repenser à ce passage où Jésus fait son premier miracle, où sa puissance et son œuvre commencent. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit : Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur : Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases. Ah, tiens, des vases. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : Remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit : Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Moi, j'aime ce message de l'Évangile, j'aime ce passage, parce que justement, il nous enseigne sur la bonne disposition de cœur. Comme les convives, là, comme l'ordonnateur, comme les convives, on a à venir près de notre Seigneur pour lui confier tous nos manquements, pour confesser toutes nos erreurs, tous nos doutes, toutes nos inconséquences, toutes nos incohérences, parce qu'on a beau être enfant de Dieu, on est quand même humain. Et souvent, nos vases restent vides parce qu'on a une difficulté de partager ces choses-là avec ceux qui nous entourent et de les partager surtout avec notre Seigneur. Et souvent, je me dis, mais si je n'ai pas assez de vie spirituelle, pour moi-même, comment pourrais-je être un bon témoin ? Comment pourrais-je être un dispensateur d'amour autour de moi si moi-même je ne suis pas rempli, si mon cœur n'est pas rempli de cet amour et de cette puissance de Dieu, de la gloire de Dieu ? Dans Luc 9, 13, il est dit, vous savez, quand la foule écoute Jésus et la foule a faim, les apôtres se retrouve devant une difficulté insoluble. Il y a beaucoup de monde, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur dit : Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ils avaient besoin d'un miracle pour faire manger, pour nourrir toute la foule, mais ils cherchaient une réponse humaine. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus leur a donné la solution. Il y a un proverbe qui dit « À l'impossible, nul n'est tenu ». Eh bien si, mes frères, mes sœurs. Ce proverbe, pour nous, il n'est pas valable. Parce que pour nous, enfants de Dieu, tout est possible. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Marc 9, 23, tout est possible aussi à celui qui croit. Amen. Et c'est impossible, nul n'est tenu, ce n'est pas vrai, ça ne nous concerne pas. S'il y a une réelle disposition de cœur envers notre Seigneur, nous n'avons aucune difficulté. Mais là, Jésus nous montre aussi, dans ce miracle, qu'il y a une préparation à la disposition de cœur. Il a aligné la foule par 50. Il les a fait ranger. Il a rendu grâce. Et il a distribué les pains et les poissons en nombre suffisant. Et moi, je me disais que la bénédiction ne peut se réaliser que sur un terrain d'une bonne préparation. Dieu ne déverse pas ses bénédictions sans vérifier avec beaucoup de précision si nous avons de quoi les recevoir. Amen. Alors la question qui a suivi, c'est comment être disposé, comment être bien disposé à avoir du succès. Je ne sais pas, vous aimez le succès ? Oui ? Moi aussi, je préfère le succès à l'échec. La question que j'avais et la réponse, je l'ai trouvée dans Josué 1,7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà comment avoir une bonne disposition de cœur. On aime avoir du succès, hein. On aime avoir du succès dans son travail, on aime avoir du succès au lycée, dans les études, on aime avoir du succès dans l'éducation de nos enfants aussi, on aime avoir du succès, j'allais dire, dans notre service, dans notre ministère. Quand on commence quelque chose, c'est vrai que, enfin moi j'ai pas rencontré beaucoup de monde qui aime ça, mais quand on commence quelque chose, c'est pas pour le rater, ou alors il y a un souci. C'est vrai que quand on débute quelque chose, c'est pour le réussir, pour avoir du succès. Et la loi de Dieu, là, elle nous donne les clés du succès. Il y a des principes déterminants pour réussir dans toutes nos entreprises. Le Seigneur dit à Josué, étudie ces principes, réfléchis profondément à ce qu'ils veulent dire, agis en fonction, et alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et moi, je voyais derrière ces réussites, je voyais deux principes majeurs. Et ces principes, ils sont expliqués ici. Il y a la motivation et il y a la discipline. L'un ne va pas sans l'autre, mes frères, mes sœurs. La motivation sans la discipline conduit au désenchantement et la discipline sans la motivation conduit au découragement. Alors la motivation, c'est bien beau de le dire, mais comment naît la motivation ? D'où elle vient ? Qu'est-ce qui donne cette motivation ? Le premier point que j'ai trouvé, c'est que la motivation vient de la passion, déjà au niveau humain. Moi, j'aime passionnément ma femme et je suis prêt à traverser le désert pour la rejoindre. Amen. Heureusement qu'il n'y a pas de désert à Montauban. Mais pour réussir une vie spirituelle, il faut être passionné aussi. Il faut être passionné. Et le Deutéronome 6,5 nous le dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Voilà la passion. S'il faut une passion, moi je suis passionné de Dieu. Il faut aimer le Seigneur passionnément. Mais si on n'aime pas le Seigneur de cette manière, alors mon frère, ma sœur, repens-toi, car c'est un péché. Il faut aimer notre Dieu de cette manière-là. Il n'y a pas d'autre manière. Et si je dis que c'est un péché, c'est parce que la parole nous prévient, nous avertit. Dans Apocalypse 2,4, il est dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et l'Apocalypse 3,16 nous dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. C'est un avertissement solennel de la part de notre Seigneur. Quand on est passionné, on est prêt à traverser le désert. On est prêt à faire des choses extraordinaires. Je lisais il n'y a pas très longtemps la biographie d'un homme qui s'appelle Christopher Allam. Si vous avez l'occasion, allez voir son bouquin, sa biographie. C'est un homme qui est né dans une famille musulmane, très reconnue, etc. Mais lui a été touché par la grâce de Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur, malgré cela. Et pendant de longues années, il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique, bourré de médicaments, de traitements chimiques, pour lui faire changer d'avis. Mais il n'a jamais changé d'avis. Il est ressorti, il a continué à prêcher la parole de Dieu. Et après l'HP, il s'est retrouvé en prison pendant des longues années, où là, on a essayé de le briser, de le casser. Mais lorsqu'il a exécuté sa peine de prison, il est ressorti, il a continué à prêcher la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. Il est allé dans une école biblique en Suède, il a obtenu la nationalité suédoise, il a rencontré son épouse, il a fondé une famille, il a enseigné dans l'église, dans l'école biblique en Suède. Et après, mes frères, mes sœurs, pendant des années, des dizaines d'années, il est parti de par le monde, évangéliser, porter la parole de Dieu, enseigner en Asie, en Afrique, dans des pays. C'est un des premiers qui a porté la parole de Dieu derrière le rideau de fer. Et il y a eu des conversions bien avant que le communisme chute. Cet homme-là était passionné de Dieu. C'est très bien de lire ces ouvrages-là, ces biographies. Si ce n'est que ça me renvoie, moi humain, ma petitesse par rapport à de tels hommes de Dieu. Mais lorsqu'on est passionné de Dieu, voilà ce que Dieu nous autorise à faire. Dans Luc 9, 23, 25, vous savez, il est dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et c'est ce qu'ont fait ces hommes de Dieu-là. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Donne au Seigneur un amour passionné, c'est le premier principe de la motivation. La deuxième raison de la motivation, ça peut venir d'une prise de conscience de l'enjeu qui est devant nous. Moi, je vois des choses quand, au niveau humain, Anouk va passer son BTS, et là, c'est la dernière ligne droite, et ben, elle se met rudement à travailler. Voilà, c'est quand les chances arrivent, on se dit « Oh là là, il faut que je m'y mette ». Mais nous, est-ce qu'on est vraiment conscient de l'enjeu de notre vie spirituelle ? Excuse-moi, Anouk. Est-ce qu'on est conscient de notre vie spirituelle, de cette vie que le Seigneur nous donne sur notre passage terrestre, mais aussi notre salut éternel ? Timothée 4, 8, exerce-toi à la piété. 1 Timothée 4, 10, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Non, ça c'est la discipline. Exerce-toi à la piété. C'est sur cela que je voulais insister. Parce que c'est la vie qui est au bout. Notre vie sur terre, mais notre vie éternelle, notre salut éternel. Dans Deutéronome, plusieurs fois dans le Deutéronome 30, il est question de cette vie. Afin que tu vives, tu vivras, etc. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Voilà l'enjeu. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà ce que nous dit la parole. Cette prise de conscience de l'enjeu spirituel, ça peut être aussi une des clés de notre motivation. Et pour terminer, la motivation peut venir aussi de la rémunération. C'est vrai que moi, souvent, des fois, j'ai été motivé de travailler pour toucher un salaire à la fin du mois. Ça aide. Pour le travail, on ne le fait pas trop pour la gloire, mais parfois, on ne ferait pas autant d'efforts ou il n'y aurait pas autant d'abnégation s'il n'y avait pas une récompense au bout. Et on peut le voir, hein, les sportifs, voilà, pour avoir une médaille, ils sont prêts à tout, même à se doper, mais à s'entraîner 10 heures par jour, etc. Parce qu'il y a une récompense au bout, ils sont prêts à tellement de choses. Mais nous, il y a un prix à remporter. Amen. Le Seigneur nous l'a dit, Ésaïe 62, 3, « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Amen. Voilà ce que le Seigneur nous promet, nous. Ce salut éternel, ces couronnes, ces récompenses qui sont là. Et moi, ça me motive. Ça me motive. Alors, pour terminer, la discipline, c'est quelque chose aussi qui est indispensable pour avoir une bonne disposition de cœur et pour avoir des succès et les bénédictions que Dieu nous réserve. Ça se trouve là, au verset 9 qu'on a lu dans Josué, « L'Éternel est avec toi ». Est avec toi. Ça ne veut pas dire justement qu'on peut faire n'importe quoi. Là, Josué réussit parce que l'Éternel est avec lui. Ça veut dire que ce que Josué fait est agréé par l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, il ne s'agit pas d'entreprendre tout et n'importe quoi en se disant l'Éternel va bénir. C'est parce que l'Éternel est avec moi que je réussis. Et s'il est avec moi, c'est parce que moi je fais ce que lui me demande de faire et pas ce que moi j'ai envie de faire. Et Dieu n'est pas avec nous quand nos projets ne sont pas ses projets. Dieu n'est pas avec nous quand nos plans ne sont pas ses plans. Ça, c'est une certitude. Dans Jacques 4, il est dit, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. » Alors, mes frères, mes sœurs, si vous faites ceci et cela, vous êtes bénis. Le tout, c'est de savoir ce qu'est ceci et cela. Mais c'est à vous de savoir ce qui est important dans votre vie et ce que le Seigneur veut pour vous. Mais on peut se poser ces questions, effectivement. Est-ce que cet achat, ce travail, ce voyage, ce déménagement, cette installation, cette orientation est de Dieu ? Parce que si elle est de Dieu, elle sera bénie. Amen. C'est vrai que la discipline, hein, c'est un mot qu'on n'aime pas trop. Hein. C'est comme la soumission. Il y a des mots comme ça dans le dictionnaire que nous, Français, on n'accepte pas trop. Vous savez, ce mot discipline, il vient du mot disciple, tout simplement. Alors, le mot chrétien apparaît deux fois dans le Nouveau Testament. Et le mot disciple, lui, dans tout l'ensemble de la parole, il apparaît 300 fois, dont 270 fois dans le Nouveau Testament. Et si le Seigneur Jésus insiste sur le mot disciple, c'est pour nous donner une leçon. Et en plus, il est gentil parce qu'il insiste vraiment, parce qu'au cas où on n'aurait pas compris, au moins il l'a répété 270 fois. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Les apôtres étaient avant tout des disciples. Dans Matthieu 10, il est dit, Jésus appela les disciples quand il les a réunis. Il ne les nomme pas tout de suite des apôtres, il les appelle des disciples. Donc, soyons des disciples, soyons disciplinés. Dans Matthieu 11, 29, il est dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, ça veut dire apprenez de moi, dans une autre version. Ou si on traduit littéralement le grec, c'est apprenez de moi. C'est donc bien un enseignement que le Seigneur nous donne. C'est une règle de conduite à laquelle on doit se soumettre si on veut atteindre un objectif. Alors comme synonyme, je regardais, il y a rigueur, régularité, application, ponctualité, obéissance, assiduité, détermination. Tout cela, c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais comme nous avons été motivés, nous le faisons. Alors c'est vrai que la discipline, elle s'applique à plein de domaines, hein, dans le sport, dans la scolarité, dans la maîtrise de soi, dans le domaine artistique, dans les disciplines morales, etc. Les disciplines alimentaires. Enfin, tout ça, la parole nous donne des clés, des versets. Et personne ne peut réussir sans discipline. Moi, j'avais une amie dont les enfants étaient dans l'équipe de France sport-études de natation. La première grande fille avait été sélectionnée après dans l'équipe de France olympique, mais elle faisait 25 km par jour de natation. 25 km par jour. Exerce-toi. Moi, je préfère le prendre plutôt que dans la natation. J'aime la mer, j'aime nager, mais 25 km, c'est peut-être un peu too much pour moi. Par contre, dans Timothée, il est dit « Entraîne-toi à rester attaché à Dieu ». Timothée 4,8, ça c'est la version Semeur qui dit cela. « Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Développe la piété. Augmente ta foi. Amen. » C'est vrai donc pour cette vie spirituelle, c'est vrai pour l'étude de la parole. Josué nous le disait, médite-la jour et nuit. 1 Timothée 4,13, applique-toi à la lecture. Et dans l'Ancien Testament, on voit que cette lecture se faisait à voix haute, audiblement, pour l'ensemble de l'Assemblée. Et moi, il y a un psaume que j'aime, c'est le psaume 119-148 qui dit « J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Quand je me lève, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Amen. Ça, c'est de la discipline. Il y a aussi, on pourrait parler de la prière, psaume 55-17, « Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. » Au verset 18, il est dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entend ma voix. » Amen. De la discipline dans la lecture, dans la méditation de la parole, de la discipline dans la prière, de la discipline dans la fréquentation de l'Église, mes frères, mes sœurs. Quand Pierre et Jean montent, là, à l'heure de la prière, ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours à la troisième heure. Ils montent au temple tous les jours. Nous aussi, nous avons à fréquenter l'Église régulièrement. Actes 1, 13 et Actes 2, 42, vous les connaissez, ces versets, nous disent qu'ils sont assidus chaque jour au temple. L'évangélisation, prêcher la bonne nouvelle à la création. Le service, il faut être discipliné. 1 Corinthiens 15, 58, travaillant de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Mais cette discipline spirituelle, c'est vraiment une contrainte qui est librement consentie. Amen. Alors, il y a beaucoup de bienfaits, mais si on néglige cela, on sait qu'on rate quelque chose. Pour conclure, quels sont les bienfaits de cette discipline ? C'est une plus grande communion avec Jésus, une plus grande connaissance des choses de Dieu, un plus grand enracinement dans sa parole et ce succès avec des fruits. quand c'est trop long, le micro s'arrête. C'est automatique, vous savez, il y a un temps de prédication, et quand le temps est dépassé, le micro s'arrête. Vraiment, l'église de Montauban est formidable. Non, je voulais juste terminer sur Matthieu 13, 58, qui dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à Nazareth, où pourtant il avait grandi. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Donc si notre cœur est disposé, si nous avons cette foi, Dieu bénira. Amen. Alors est-ce qu'on a perdu des miracles? Est-ce que parfois on est reparti à vide? Eh bien, ce matin, juste notre prière, c'est de demander au Seigneur de nous aider, dans cette quête-là. Il n'est pas question de chercher à convaincre Dieu, mais il est question de savoir ce qu'il veut, parce que lui sait bien mieux que nous quels sont nos besoins. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Laissons-le agir. Adoptons cette bonne attitude pour qu'il puisse déverser toutes ses bénédictions dans nos vies. Et on n'a plus qu'une chose à faire après, c'est se préparer à recevoir tout cela. Amen.